C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous, Jean-Marie.
Bonsoir, Roselyne.
Alors, Marine Le Pen va-t-elle franchir le pas de la motion de censure et prendre la lourde responsabilité de faire tomber le gouvernement? Sa décision tient à un fil. Michel Barnier vient cet après-midi de lâcher du lest. Il n'y aura pas de hausse des taxes sur l'électricité. Le Premier ministre a donc consenti à faire un geste. Quant aux socialistes, ils vont voter cette censure et sont désormais catalogué dans le camp des irresponsables, selon la porte-parole du gouvernement.
Le Rassemblement national ne détient pas seul la clé du résultat final du vote d'une éventuelle motion de censure. Et il appartient aussi aux députés socialistes qui ont une responsabilité inouïe de relever la tête et de se défaire de leur lien aujourd'hui avec la France insoumise.
La France entre donc dans une période de terrible incertitude qui braque les marchés, qui ont une sainte horreur de l'inconnu. Michel Barnier s'est invité cette semaine aux 20h de TF1 pour sonner l'alarme et prédire une tempête financière en agitant le scénario du mois après le chaos. Après moi le chaos, pardon. Il est vrai que c'est un grand saut dans l'inconnu pour Michel Barnier et Emmanuel Macron, dont certains dans l'opposition rêvent de sa démission. En attendant, le budget de la sécurité sociale a été le fruit d'un compromis entre les sénateurs et les députés, mais le texte doit repasser à l'Assemblée nationale lundi, avec le risque, bien sûr, d'un 49-3, ce qui va déclencher forcément dans la foulée une probable motion de censure. Vous voyez, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. On en parle avec Bruno Jeudy, directeur de la Tribune Dimanche. Bonsoir, mon cher
Bonsoir,
Bruno.
Bonsoir, Roselyne.
Catherine Tricot de la revue Regard. Bonsoir à vous, Catherine.
Bonsoir, Roselyne.
Et Carole Barjon, éditorialiste politique. Bonsoir à vous, Carole.
Bonsoir.
Et en fin d'émission, nous retrouverons Véronique Reissou pour sa chronique sur les réseaux. Alors, Michel Barnier a donc cédé sur les taxes sur l'électricité et renonce à augmenter les cotisations sur les bas salaires. Alors, peut-être première question, est-ce que c'est pour le bien commun, pour sa survie ou les deux, mon général ?
L'instinct de survie en politique n'est pas séparable de aussi un peu l'intérêt du pays, parce que la censure, si elle devait être votée, serait une grande catastrophe, à mon sens, pour la France, dans le moment qu'elle traverse. Il faut quand même regarder, faut pas regarder que notre petit quartier parisien, il faut regarder ce qui se passe autour. La guerre est aux portes en Ukraine, et ça va passer de plus en plus mal sur ce front-là. La crise financière commence à bourdonner. Trump vient d'être élu aux États-Unis, il promet une guerre commerciale à la France. J'en passe, et des meilleurs, avec évidemment des Français plongés encore un peu plus dans la morosité, dans leurs difficultés, sans parler des plans sociaux. Et de quoi parlent les hommes politiques depuis une semaine, depuis 15 jours, de cette petite affaire de censure, figurez-vous, Roselyne. Franchement, je veux bien croire
que petit brin.
Je veux bien croire que les opposants ont le droit de s'opposer, mais il y a des moments peut-être qu'ils peuvent aussi mettre sur pause leurs intérêts politiques, pour certains leurs ambitions d'avoir une présidentielle en 2026 ou 2025, style Jean-Luc Mélenchon, petite vengeance pour Marine Le Pen, petites ambitions politiciennes pour Gabriel Attal ou d'autres. Eh bien non, il parle de petite censure. Eh bien, je pense que Michel Barnier se débat dans une situation. C'est pas brillant, ce budget, ce débat dans une situation politicienne absolument inextricable. Et peut-être qu'il va repousser l'échéance, mais il gagne peut-être juste du temps pour retrouver Roselyne dans la même situation, jeudi 18 décembre, où nous parlerons peut-être de la censure sur le projet de loi de finances.
Tirade de Bruno Jeudy, brillante. Mon cher Jean-Marie, est-ce que... alors, déjà, on entend Jordan Bardella dire « Le Rassemblement vient de remporter une victoire en obtenant de Michel Barnier l'annulation de la taxe de 3 milliards d'euros sur l'électricité. Grâce à notre action déterminée, les prix de l'énergie n'augmenteraient pas pour les Français en 2025. » Bon, voilà, mais il dit « Il reste des choses encore, une liste des courses qui n'est pas terminée. » On sait que Marine Le Pen... ne va pas s'en tenir là. Elle veut le déremboursement des médicaments sur le budget de la sécurité sociale. Elle veut faire baisser l'aide médicale d'État. Donc, il reste encore des choses. Est-ce que Michel Barnier, en quelque sorte, c'était son dernier mot, à votre avis ?
Je ne sais pas. En tout cas, Jordan Bardella a raison de crier victoire, parce que c'est dans la liste proposée par, ou demandée, exigée par le Rassemblement national, Déjà, Michel Barnier a pris la première, la plus urgente, la plus insistante peut-être de la part du Rassemblement national. Le problème, c'est que quand on met un doigt dans ce genre de processus, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Parce que la liste n'est pas définitive, donc il suffit de continuer, de dire ce qu'a fait aussitôt Jordan Bardella. En gros, le compte n'y est pas. Donc je pense que Michel Barnier s'est mis quand même dans une situation un petit peu délicate. Et alors ça renvoie à ce qui est dans la tête des dirigeants des uns et des autres. On sait que dans la tête de Jean-Luc Mélenchon, c'est clair, il faut, à travers cette censure, une petite censure qui devienne grande, c'est-à-dire qui aboutisse de crise en crise à la démission du président de la République pour avoir une élection présidentielle. Et on ne peut pas ne pas penser que Marine Le Pen nourrit le même projet, c'est-à-dire que de crise en crise, on arrive à la démission du président de la République. Et moi, je n'arrive pas à me détacher de l'idée que dans l'esprit de Marine Le Pen, il y a quelque chose qui est en lien avec le jugement qui la menace, c'est-à-dire qui la menace d'inéligibilité. Et ce jugement, il faut regarder sa date. La date du jugement est fin mars, dernier jour de mars. Donc il faut impérativement que l'élection présidentielle ait lieu avant. Parce qu'à ce moment-là, avant, Marine Le Pen peut tout à fait se présenter, elle ne sera pas menacée d'inéligibilité dans ce délai-là. Donc elle a intérêt à la crise, mais peut-être je me trompe, et peut-être qu'elle sera soudain ressaisie par un quelconque sens des responsabilités et cessera de penser de la sorte. Mais pour le moment, quand on regarde un peu les choses de l'extérieur, c'est frappant de constater que Jean-Luc Mélenchon, comme Marine Le Pen, ont maintenant à visage découvert le même objectif, obtenir la démission du président de la République et donc une élection présidentielle.
Catherine, est-ce que vous êtes d'accord sur l'analyse de Jean-Marie ?
Hypothèse, hypothétique.
Oui. Est-ce qu'elle elle va encore faire monter les enchères ou est-ce qu'elle va, dans le fond, c'est ce qu'elle cherchait depuis longtemps, c'est-à-dire montrer à ses électeurs qu'elle a obtenu des choses, comme d'ailleurs Laurent Wauquiez était sans doute un peu jalouse, que Laurent Wauquiez ait obtenu quelque chose sur les retraites, enfin l'indexation des retraites.
Je pense en effet qu'elle vient de remporter une victoire, c'est-à-dire que cette annulation va lui être portée à son crédit. Je trouve ça très problématique, pour tout vous dire. Parce que faut savoir qui on a envie de conforter. J'ai écouté l'intervention de Michel Barnier. Il y a une chose tout à fait anecdotique, mais qui m'a bien frappée. Il a parlé de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen du Front National. C'est-à-dire que l'extrême, le qualificatif, il y a un des extrêmes qui a disparu. Il n'y en a plus qu'un, ça serait Jean-Luc Mélenchon. Et que par ailleurs, tout ce qu'il a promis à Marine Le Pen, c'est « je vais m'occuper de la sécurité, je vais m'occuper de l'immigration ». Je vais m'occuper de vous introduire la proportionnelle. Voilà les projets qu'il a annoncés pour le mois de janvier. C'est-à-dire qu'il fait toutes les concessions désormais du côté du Rassemblement national. Je pense que c'est un pari extrêmement dangereux, extrêmement problématique. Parce qu'encore une fois, dans l'Assemblée nationale, il y avait un groupe qui est sorti en tête, on ne peut que le rappeler, mais néanmoins qui a porté des propositions et même des propositions qui ont, pour un certain nombre d'entre elles, reçu l'assentiment de la majorité des députés. Or, toutes ces propositions pour le budget ont été rembarrées et on ne retient que celles qui sont portées par le Rassemblement national. Donc, il y a bien un choix à l'intérieur de la représentation nationale pour choisir son interlocuteur, c'est Marine Le Pen. Et toutes les propositions portées par la gauche, notamment en matière de mesures de justice fiscale, sont retoquées. Et ce que je crois, c'est que Marine Le Pen, le petit point de détail de désaccord que j'ai avec Jean-Marie, c'est que je ne crois pas que le 31 mars soit la seule date qui compte. Je pense que Marine Le Pen est la plus prête. Elle est celle qui est prête. À droite, ils sont totalement éclatés. C'est-à-dire que entre Gabriel Attal,
tout le bloc central.
Le groupe, ce qu'on appelle le socle commun, mais qui quand même est de droite. On va le dire les choses ainsi, parce que ceux qui pensent, moi, j'ai même du mal à savoir où est la droite de la droite là-dedans, parce que des fois, du point de vue, les macronistes sont.
Ou elle est du côté du Rassemblement national.
Ce que je veux dire, c'est que entre les LR et les macronistes, ils jouent des chaises comme ça. Ouais. Bref. Ils ne sont pas prêts de se mettre d'accord, et d'ailleurs Barnier l'a rappelé, si on ne se met pas d'accord, ça sera un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et c'est ça qui joue tous les deux, et on peut comprendre leur point de vue.
Carole, est-ce que Michel Barnier se met dans les mâchoires, en quelque sorte, du Rassemblement national ? Est-ce que c'est effectivement un jeu dangereux ? Mais elle aussi, parce que dans le fond, si elle vote la censure, elle va être, elle cherche la respectabilité, l'esprit de responsabilité. Et si elle fait tomber le gouvernement, ça va lui coller au basque pendant longtemps. Or, elle est aussi tenaillée par sa base et par ses électeurs qui veulent qu'elle s'oppose.
Oui, oui. En fait, ils sont tous les deux face à un dilemme.
Je me tiens par la barbichette, en fait.
C'est-à-dire que Michel Barnier est dans un dilemme entre tenir ses promesses de réduction du déficit, de redresser les finances, etc. Et puis, finalement, lâcher du lest pour finalement conserver ses fonctions. Et puis aussi, conserver ses fonctions. Oui. Et de l'autre côté, il y a Marine Le Pen qui, effectivement, est prise entre le fait de donner satisfaction à sa base, qui veut maintenant, d'après les derniers sondages qu'on a vus ces derniers jours, la démission, le départ d'Emmanuel Macron. Mais à l'inverse, à ce moment-là, elle serait un peu responsable ce qui pourrait être perçu comme le chaos. Et donc, c'est finalement l'annulation de toute sa stratégie de la cravate, comme on disait, et de la respectabilisation. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est est-ce que les concessions qu'est en train de faire Michel Barnier, et on a bien vu que depuis le 20h de TF1 l'autre jour, il avait déjà ouvert des portes sur la proportionnelle, comme l'a rappelé Catherine, etc. Est-ce que ça sert à quelque chose ?
Est-ce qu'elle lui en sera gré ?
Non, c'est pas ce que je veux dire.
Comment ça se passe ?
Justement, parce que si l'objectif de Marine Le Pen est en réalité ce qu'a décrit à l'instant Jean-Marie, c'est-à-dire, au fond, d'avoir une présidentielle anticipée, etc. Au fond, toutes les concessions ne servent à rien. Absolument à rien. Donc,
sinon, elle aura encaissé quand même les bénéfices d'image d'un Premier ministre concédant aux idées du Rassemblement National.
Concédant ou lâchant.
Ou lâchant, et donc c'est quand même un bénéfice d'image pour...
Alors,
pour Marine Le Pen, mais pas pour Michel Barnier.
Pour Marine Le Pen, bien sûr.
Donc, si de toute façon l'objectif de Marine Le Pen, c'est effectivement, je suis obsédée par l'agenda judiciaire, le 31 mars, etc., donc il me faut une présidentielle anticipée avant, c'est un raisonnement qu'on peut comprendre, qu'elle tienne, mais qui pêche quand même quelque part.
Oui.
Parce que ça suppose que Emmanuel Macron démissionne.
Oui, alors ça, on va en dire un mot.
Franchement, c'est pas gagné.
Je voudrais juste ajouter, parce que vous aviez commencé, Roselyne, sur l'intérêt du pays.
C'est Michel Barnier qui a l'intérêt des Français.
Oui, mais bien sûr, mais l'intérêt du pays, il faut observer que toutes les demandes qui sont faites à Michel Barnier sont des demandes qui tendent à augmenter les dépenses, alors qu'on est menacé par une crise financière à cause de l'ampleur du déficit. Donc on est vraiment à l'envers de ce qu'il faudrait faire.
Pardon, mais la gauche, elle ne demande pas des dépenses supplémentaires, elle propose des impôts nouveaux qui rapportent de la justice fiscale.
Non, mais l'augmentation de la retraite, c'est 15 milliards.
D'accord. Oui, 15 milliards. Et donc, on va dire en face, juste pour la petite polémique, mais que 2% sur les milliardaires, c'est-à-dire sur les 150 familles qui ont plus d'un milliard de patrimoine, 2%, ça rapporte 14 milliards. Donc, on peut se dire que ce n'est pas ça l'enjeu. Toutes les propositions qu'a fait la gauche, elle s'est attachée à faire des propositions qui rapportent de l'argent parce que son objectif à elle, c'est de remettre de l'argent dans les services publics. Donc on ne peut pas dire, Jean-Marie, que la gauche ait fait que demander de l'argent en plus. Elle a, dans un premier temps, puisque c'est de cela dont on vient de discuter, on vient de discuter des recettes, et dans la matière des recettes, elle a proposé...
La gauche, elle a fait ce qu'elle fait habituellement, c'est-à-dire elle augmente massivement les impôts,
des plus riches,
au pouvoir.
Des plus riches.
Elle prépare ça,
là, en l'occurrence, des plus riches.
La différence, Catherine, c'est que la droite au pouvoir, elle augmente aussi les impôts, donc on est quand même dans dans un moment un
d'une
peu...
D'une manière
où on
beaucoup plus répartie. La droite fait répartie sur tout le monde.
La droite, et c'était la surprise avec Michel Barnier, c'est qu'il a fait le choix d'augmenter les impôts sur les plus aisés. Donc qui...
Oui, non, pas seulement.
Quand même.
Pardon, la retraite, ce n'est pas les plus aisés. L'EDF, ce n'est pas les plus aisés. Oui, et le déremboursement...
Avec un rattrapage au bout de
six mois. Un rattrapage pour ceux qui ont une retraite moins du SMIC. Oui, oui. Donc, ce n'est pas tout le monde, quand même. Et par ailleurs, dérembourser les soins médicaux, je regrette, mais c'est tout le monde. Et c'est ceux qui vont être vraiment victimes, ce sont les petits revenus, quand même. C'est quand même les plus pauvres qui sont victimes de cette politique.
Non, je pense...
n'est pas égalitaire, cette politique. Elle répartit surtout la même chose, mais 5 euros.
Je suis d'accord que ce n'est pas la politique des insoumis, Catherine. On est
non, mais je ne parle pas seulement des insoumis. C'était la gauche.
Sur ce plan-là.
La gauche, le modem, est idiot.
Ce que je veux dire, c'est que de toute façon.
Non, mais c'était quand même pas que les insoumis.
Il faut juste rappeler que nous sommes dans une situation qui est tout à fait exceptionnelle, dans la mesure où ce budget, qui n'est pas brillant, je le redis, a été réalisé, préparé. Dans un moment extrêmement rapide. Il est nommé le 4 septembre. Il doit présenter un budget.
Il a 2 mois. Quoi.
Fin septembre, début octobre. On se retrouve dans une situation infernale avec une trajectoire, c'est à peu près la seule bonne nouvelle de la semaine, trajectoire financière que la France doit présenter à la Commission européenne de Bruxelles, qui a été validée. Preuve d'ailleurs que beaucoup de pays sont actuellement un peu dans la situation française d'une situation économique et financière qui se dégrade pour beaucoup. On verra la note de la France demain soir. Peut-être qu'elle ne sera pas dégradée, mais si elle n'est pas dégradée, ça voudra dire aussi que les agences regardent les situations financières des pays européens avec circonspection, parce que toutes les situations sont en train de se dégrader, y compris pour des pays qui, jusqu'à présent, étaient plutôt rangés dans la catégorie des pays dits frugaux. Donc, la situation française, aujourd'hui, elle est quand même exceptionnelle. Et donc, on peut accabler Barnier de tous les maux, n'empêche qu'il est quand même rattrapé plutôt par la petite politique politicienne que par de grandes ambitions pour le pays. C'est au minimum, on peut dire ça, et du camp des irresponsables de droite et du camp des irresponsables de gauche.
Alors, je voudrais que vous écoutiez François Hollande, qui affirme qu'il, lui, votera la censure. Donc, on le met dans le camp des irresponsables, selon vous. Oui. Et il pense que le RN a favoriser le gouvernement Barnier depuis le début. On l'écoute.
Ça dépend du Rassemblement national, puisque le gouvernement Barnier, Michel Barnier lui-même, n'ont été nommés et constitués que parce que le Rassemblement national avait donné son aval. Lorsque Emmanuel Macron cherchait pendant des semaines un Premier ministre, il avait fini par donner le nom de Michel Barnier parce que c'était Marine Le Pen qui ne le récusait pas. Ouais. Le Rassemblement national quittera ou ne quittera pas cette majorité.
Alors,
implicite,
vous dites
et
ça.
Il y aura le gouvernement Barnier qui tombera ou qui ne tombera pas. Ouais.
Alors, ce qu'il dénonce, Jean-Marie, c'est que Michel Barnier s'appuie depuis le début sur le Rassemblement national.
Non, il a raison sur la naissance du gouvernement Barnier, qui en effet a été avalisé par Marine Le Pen. Il y avait quand même une sorte de sauf-conduit délivré par Marine Le Pen sur ce gouvernement. Donc tout le monde pensait qu'il pourrait aller, à quelques mois, en tout cas entamer l'année de 2025, jusque-là. Et donc il s'était mis d'entrée de jeu sous la dépendance du verdict de Marine Le Pen. Donc ça, c'est absolument vrai.
C'est aussi parce que François Hollande, oui, et ses amis n'ont pas aidé Bernard Cazeneuve, oui, à être validé,
oui,
par
ça, le Parti Socialiste. C'est un sujet pour les historiens, mais
Emmanuel Macron vous explique interrogeant le Parti Socialiste,
Emmanuel Macron n'a jamais eu l'intention de nommer quelqu'un de gauche. Allons,
je ne sais pas s'il a eu l'intention.
Voilà.
En tous les cas,
on laisse finir Bruno.
En tous les cas, le président de la République les a sondés, et les trois, que vous preniez Olivier Faure, que vous preniez Boris Vallaud, que vous preniez François Hollande, aucun des trois ne lui a dit « je soutiendrai Bernard Cazeneuve si vous le nommez
François
Premier
Hollande
ministre ».
François Hollande vous dira qu'il n'a pas été consulté sur ce point, mais c'est un
François
autre problème.
François Hollande ne l'a pas
soutenu. Non, mais juste pour terminer sur François Hollande, je pense que son analyse
il
du
a
début,
été consulté.
Son analyse du début est juste, et c'est justement un des problèmes de Michel Barnier, c'est que d'entrée de jeu, il paraît être sous le contrôle. D'ailleurs, Marine Le Pen l'a dit elle-même.
Elle le sait, elle en profite.
Elle l'a dit, elle en profite, elle l'a affirmé. Simplement, après, dans la foulée, de cette interview de ce matin, il annonce qu'il votera la censure. Ce qui est contradictoire avec un autre propos de François Hollande tenu dans la même émission, qui est de dire qu'il se veut se dissocier absolument des gens qui cherchent la démission du président de la République. Oui. Or, à partir du moment où on vote une censure qui est faite pour créer la crise et pour justement aboutir in fine à la démission du président de la République, c'est illogique de voter cette censure. Il devrait au contraire s'inscrire en faux. Mais bon, ça c'est...
Carole, on va écouter Mathilde Panot la France Insoumise, en tout cas, qui se mettent à rêver d'une démission d'Emmanuel Macron.
Aujourd'hui, tout le monde comprend que la France a un problème et qu'il s'appelle Emmanuel Macron. Vous avez peut-être
vu ce
sondage.
Vous l'imaginez quitter de lui-même l'Élysée ?
Comment ?
Vous l'imaginez sérieusement quitter de lui-même l'Élysée ?
Vous avez peut-être vu ce sondage que si le gouvernement Barnier tombait, 63% des Français interrogés étaient favorables à la démission d'Emmanuel Macron. Moi, je vais vous dire, le gouvernement Barnier va tomber. Il ne restera que 2 solutions à Emmanuel Macron. Soit de nommer Lucie Castet à Matignon, soit de s'en aller.
Voilà, c'est un peu Lucie Castet, Carole, qui lève les yeux au ciel.
C'est absolument n'importe quoi. parce que tout le monde a l'air de penser, enfin, on entendait Jean-François Copé hier, Charles de Courson, qui dit que de toute façon, la seule solution, c'est la démission de Macron. Peut-être. À terme.
Et, non, mais c'est de la petite politique, comme disait Bruno, quand même.
Pardon,
c'est
pas si jamais, en admettant qu'il y ait censure, donc le président de la République cherche un nouveau Premier ministre qui est censuré encore, etc. Il y a une situation de blocage et que, donc par hypothèse, il finirait par démissionner, là, je ne sais pas, en février ou... Bon.
Pas Jean de la maison.
Mais d'abord, pardon, ça ne règle rien. Il n'y a toujours pas de majorité à l'Assemblée nationale.
Et, même avec le nouveau président de la République,
et il n'aurait pas le droit, le nouveau dissoudre. Président de la République n'aurait pas le droit de dissoudre avant au moins le mois de juillet prochain. Donc, franchement, tout ça n'a pas de sens et ces gens sont irresponsables.
On marche sur la tête, Catherine.
Moi, j'ai
trouvé que
d'abord,
Mathilde Panot a raison de avec son disque rayé de Lucie Castet.
Ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas penser que c'est Barnier ou rien. C'est-à-dire qu'il y a quand même des possibilités autres que Michel Barnier. Ce n'est pas lui ou le chaos, ça je ne crois pas. Donc la gauche est légitime dans la censure qu'elle va voter contre le gouvernement Barnier. Ça va faire tomber Barnier, peut-être, si Marine Le Pen vote avec la gauche, ça fera tomber Barnier. Donc s'ouvre la question, se réouvre la question de trouver, de former un nouveau gouvernement. Moi, ce que je crois, c'est que je ne sais pas si une élection présidentielle précipitée réglerait le problème. Néanmoins, ce que je crois, c'est que nous avons absolument besoin, devant la somme des problèmes auxquels la France est confrontée, d'avoir un débat politique de fond, que nous n'avons plus, je le redis, depuis 2017. 2017,
vous
Emmanuel
dites,
Macron...
Oui,
mais
tous les jeudis.
Je le dis tous les jeudis, mais c'est vrai. De 2017...
Le débat donc, politique, il faut qu'il débouche aussi.
Oui, exactement. Donc sur une élection, pour moi, sur une élection présidentielle.
Une organisation politique.
Sur une élection présidentielle. Et c'est oui, mais une structure...
Votre souhait ne sera pas exaucé dans l'urgence.
Non, dans l'urgence, je suis d'accord. C'est le scénario actuel.
S'il n'a pas une majorité avec lui, qu'est-ce qu'il pourra faire?
Ce que je veux dire, c'est que la démission d'Emmanuel Macron, elle n'est pas obligé d'intervenir immédiatement. Ce que je crois, c'est que nous ne pouvons pas aller jusqu'en 2027 dans cette situation.
Ah non, mais ça, d'accord.
Il faut bien programmer.
Là, on parle de gens qui cherchent à pousser Macron à la démission très, très vite.
Mais d'abord, je pense que ça n'arrivera pas. Mais ensuite, je n'y crois pas à ce scénario.
Il y a quand même un petit paradoxe assez écrasant, qui est quand même qu'une bonne part de ceux qui vont voter la censure demain, je parle des élus de gauche, doivent leur salut électoral au Front républicain, c'est-à-dire au barrage contre le Rassemblement national. Et que font-ils? Ils volent au secours du Rassemblement national dans une motion de censure.
À commencer par François Hollande.
C'est vraiment, oui, à commencer par François Hollande. Je dis tout à l'heure qu'il avait tort de se joindre à la censure. Mais donc, c'est incompréhensible. Enfin, ou alors, c'est une façon pour la gauche d'enterrer elle-même le dit Front républicain.
Je ne comprends pas l'attitude du Parti socialiste qui, dans cette histoire... qui promet depuis des semaines maintenant de se détacher des insoumis, de ne plus être sous la pression des insoumis. Et lorsqu'à chaque fois qu'il y a un choix important à faire depuis l'été, à chaque fois, il rallie le camp des insoumis sur toutes les questions.
Mais vous prêtez aux insoumis
Y compris sur la PPL retraite, y compris sur... Regardez les dernières questions. À la fin, ça s'est toujours tranché. Une ou deux exceptions près, la destitution, c'est non au début, et puis finalement, au bureau des assemblées, ils disent oui pour finalement le rejeter en commission.
Si vous écoutez le discours...
Ils ont perdu ce qui leur restait.
Le discours des socialistes sur la question de la censure, ils sont plutôt pas sur l'idée de Lucie Castet. C'est-à-dire qu'ils ne reprennent pas le discours de Mathilde Panot. Ce qu'ils disent, c'est qu'il faut imaginer, sur la base de l'expérience vécue pendant les 2-3 mois... une nouvelle possibilité de majorité. Est-ce que ça peut arriver réellement? Mais en fait, ils envisagent un pacte de non-agression avec les macronistes, des alliances avec le MoDem, avec Liot.
Disons, donc, gros, nommer quelqu'un du Parti socialiste et on s'engage à ne pas faire de 49-3.
Les socialistes sont plutôt dans la recherche d'une solution dans laquelle ils disent leur désaccord avec le projet de budget présenté par Barnier et une solution alternative.
Mais pourquoi ça Jean-Luc peut Mélenchon serait d'accord avec
lui? Jean-Luc Mélenchon ne sera pas d'accord avec ça.
Bien sûr
mais c'est évident. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas penser que Jean-Luc Mélenchon décide de tout
tout.
Je pense qu'on leur a fait la, gros, oui, leur a fait la grosse voix.
C'est quand même une partie de la gauche.
En tout cas, c'est un peu retour vers le futur, parce qu'on est là en train de parler comme si nous étions sous la 4e République. Mais c'est exactement cela. La 4e République vivait cela de trois mois. Là, on y est plongé. On se disait au début, on va devoir vivre en régime parlementaire. Nous y sommes, et ça n'est pas très brillant.
Non. Peut-être un mot sur quand même ce risque financier dont parle Michel Barnier, c'est-à-dire cette tempête, ce moment grave, etc. Est-ce que le risque financier est aussi important ?
Existe. Il faut tous être hantés par ce qui est arrivé à la Grande-Bretagne. Avec Liz Truss, première ministre, elle a été balayée par le souffle des marchés en moins d'une semaine. Et donc, ce qui peut arriver à la Grande-Bretagne, qui est quand même une puissance financière, la City est quand même toujours plus puissante que Paris, peut nous arriver aussi très très vite et de façon...
aurait vécu le sort de Liz Truss.
Oui, mais franchement, et donc c'est absolument gravissime parce que jusqu'à présent, la France faisait au contraire figure de pôle de stabilité. Et c'est ce pôle de stabilité qui en faisait un pays attractif. Et c'est cette attractivité qui permettait d'avoir des taux d'emprunt à peu près raisonnables. Sauf que là, les taux vont devenir déraisonnables si on continue comme ça. La chance de la France étant que pour le moment... La BCE baisse les taux, et donc les taux en général baissent. Donc la charge de la dette baisse. Simplement, les taux auxquels la France emprunte de l'argent sont devenus les taux de la Grèce. Donc c'est vraiment gravissime comme situation.
C'est symbolique.
Et je pense, c'est pas ce que symbolique. Je pense qu'on peut être balayé par une tourmente financière comme on n'en a jamais vu là-dessus, sur l'idée que la France est devenue non crédible.
L'écart entre les taux auxquels on emprunte et l'inflation, c'est 1%. Donc on emprunte aujourd'hui très peu cher. La Grèce aussi, mais nous aussi.
3%.
C'est-à-dire que, non, 3% le taux d'emprunt, mais il y a 2% d'inflation, donc ça fait en réel 1%. Donc en fait, l'argent aujourd'hui est très peu élevé. Le coût de l'argent est très peu élevé. Donc je ne dis pas que ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi, mais on s'en parlait tout à l'heure avec Jean-Marie. L'Allemagne n'emprunte pas, et l'Allemagne se trouve dans une situation avec les frugaux, ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui. Les frugaux, aujourd'hui, sont dans une situation critique sur le plan économique parce qu'ils n'ont pas investi. C'est-à-dire que ne pas investir, ne pas emprunter, n'est pas forcément la meilleure des idées.
Ça, c'est pas le problème de la France.
Donc, ce n'est pas la meilleure des idées. La deuxième chose que je veux dire, à propos de la comparaison entre Lucie Castet et Mme Théel, et Taylor, elle s'appelait Liz Taylor.
Liz Truss. Non, Liz Taylor, c'est une actrice.
Oui, c'est vrai. Liz Truss, pardon.
Richard Burton.
Liz Truss. Liz Truss, elle avait baissé d'un coup les impôts. Tandis que ce n'est pas du tout ce que propose le Nouveau Front Populaire.
Donc,
ce n'est pas du tout comparable. La proposition de la gauche n'est pas de se désintéresser du problème de faire rentrer de l'argent.
Vous savez, les agences de notation, elles sont sensibles davantage à ce qui se passe lorsque la France veut reculer, notamment sur la question des retraites, pratiquement que sur le budget.
Absolument.
Le principe des agences de notation, c'est ça. Donc, elles regardent très près ce qui se passe. Si la France décide de reculer de 15 ans en ramenant l'âge de départ à la retraite à 60 ans, alors vous aurez la crise financière et ce sera la plus grave depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
On devrait arrêter de voter.
La France.
Non, mais on devrait arrêter de voter, demander aux agences de notation de nous dire ce qu'il faut faire.
La France, c'est pas un pays qui est une île et qui vit loin du continent.
Non, mais je viens de vous dire
Carole. On est la deuxième puissance économique européenne. Si la France n'est pas capable d'honorer ses créances, eh bien la France est cool.
La France honore ses créances si on paye l'impôt.
Que vous mettiez un régime des insoumis ou un régime macroniste. C'est comme ça.
Mais
donc si la France recule de 15 ans sur les retraites, je vous dis que ce sera la crise financière la plus grave de l'histoire.
Mais en dehors de la sanction ou non des agences de notation, ce qui est déjà très grave, c'est ce que on lit dans tous les journaux économiques, etc., c'est que les investisseurs étrangers, déjà...
Oui, ne veulent plus rien.
Déjà...
C'est pas à cause du budget quand même.
C'est le climat général.
Mais qui a créé ce climat général? Emmanuel Macron a créé cette instabilité et les plans sociaux qui arrivent maintenant comme à Gravelotte sont quand même le résultat de la politique d'Emmanuel Macron.
Donc on est légitime. La croissance est encore positive.
Parlez pas en même temps là.
On est légitime légitime à interroger la politique d'Emmanuel Macron, quand même. Oui, c'est-à-dire non seulement sa politique, sa gestion politique en tant que politique, mais aussi sa gestion économique. Oui, je regrette, mais la gestion économique. La gestion économique d'Emmanuel Macron est catastrophique. Et donc on a le droit de dire qu'on peut changer de politique.
Je dirais juste
et même non seulement qu'on peut, mais moi je pense qu'il faut.
On n'a pas dit ça pendant le Covid, quand même.
Je dirais la gestion financière, budgétaire est catastrophique parce qu'il a aggravé avec évidemment des raisons. En revanche, sa gestion économique, les conditions de création du renouveau de l'attractivité française, elles ont été réelles et elles se sont manifestées jusqu'à l'année 2021-2022, on peut dire.
Non, c'est après le Covid, ça.
Mais si, quand même. La France est dans une situation plus favorable que l'Allemagne aujourd'hui.
Allez, on va clore le chapitre. Emmanuel Macron n'est pas très visible. Jean-Marie, vous vouliez dire un mot sur le Liban, sur la scène intérieure, même s'il œuvre bien évidemment en coulisses. En revanche, à l'international, le président français reste omniprésent sur le cessez-le-feu au Liban. Emmanuel Macron et Joe Biden ont été à la manœuvre et on peut parler d'une victoire diplomatique.
Oui, parce que ça fait partie du discours décliniste dominant que de dire la France ne joue plus aucun rôle et ainsi de suite. Or, ça n'est pas vrai. La France joue le rôle qu'elle peut jouer. En l'espèce, c'est intéressant de voir que l'accord de cessez-le-feu au Liban est rigoureusement un décalque de celui de 2006. En 2006, il y avait eu une guerre de la même nature. Et cette guerre s'était terminée par une démarche franco-américaine qui avait abouti à une résolution des Nations Unies qui va être appliquée désormais après le cessez-le-feu qui vient d'être conclu. Donc retour à la case départ. Initiative franco-américaine en 2006, initiative franco-américaine en 2024, pour le même résultat d'ailleurs. Et puis ça durera le temps que ça durera. Mais on ne peut pas dire que la France soit inactive ni inefficace. En tout cas, le président de la République, dans ce domaine, joue son rôle.
Mais il reste quand même des tensions, Bruno, ou qui veut répondre, entre la France et Israël.
Oui, bien sûr. La situation, en plus, la relation entre le Premier ministre israélien et le président français n'est pas très bonne. Il n'empêche, rejoins tout à fait Jean-Marie, la France a tenu le rôle qu'elle peut tenir dans cette région, vu que c'est une puissance qui peut parler à peu près avec tous les acteurs, ce qui est assez rare, et les acteurs existent, qu'on le veuille ou non. On peut imaginer en supprimer un, en supprimer un autre, mais la France a cette capacité diplomatique à parler avec tout le monde, et elle a joué son rôle, et sans doute que la paix fragile qui s'installe dans le sud Liban, c'est lié à cette opération franco-américaine d'un pouvoir américain finissant à Biden et d'une présidence française qui est invisible sur le plan intérieur, vous avez raison, mais qui là récolte un des rares succès diplomatiques d'Emmanuel Macron peut-être à l'extérieur.
Oui, encore faut-il que le cessez-le-feu soit respecté, ce qui n'est pas gagné non plus. On passe à la chronique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. Bonjour ma chère Véronique.
Bonjour.
Alors, question, puisque ça a été notre sujet, aussi on se censure, comment elle est accueillie sur les réseaux ?
Eh bien, déjà, on a fait un petit sondage pour le Figaro et on a posé la question sur le budget, est-ce que vous le rejetteriez ou pas ? 59% des Français disent « je le rejetterais » et si j'étais députée. Et sur l'usage du 49.3, mauvais souvenir, 63% des Français disent « non, il ne faut pas l'utiliser ». Ce qui fait que quand on leur pose la question « est-ce qu'il faut renverser le gouvernement ? Est-ce que ça serait une bonne ou une mauvaise chose ?» Eh bien, on a 52% des Français qui disent « ça serait plutôt une bonne chose ». Donc on se dit, bon, super, alors on va regarder par proximité partisane, parce que bon, on peut imaginer que ce 52% revêt des réalités tout à fait différentes. Alors évidemment, grosse surprise, les sympathisants Renaissance et LR, donc en gros ceux qui se sentent représentés au gouvernement disent non, c'est pas une bonne idée. Pour le reste, ils sont plutôt contents avec un 93% pour la France insoumise qui disent c'est une bonne idée de renverser le gouvernement. Et puis 69% seulement pour le Rassemblement national. Seulement, ça reste énorme, mais en proportion, voilà. Donc globalement, les Français trouvent que c'est une bonne nouvelle. Alors pourquoi ? Parce que ça, c'est les questions en soi, c'est un sondage, on vous pose une question, on répond. On a été regarder ce que disaient les gens autour de cette notion-là. Donc, retour des émojis, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu les émojis. Des émojis qui parlent assez bien d'eux-mêmes parce que la croix et puis l'urgence, le gyrophare, ben en gros, il y a urgence. Il y a urgence en soi d'agir. Pas mal de colère, de sens interdit, de bombes qui explosent, d'argent qui s'envole. En gros, les Français, ils se posent plein de questions. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils trouvent que les chiffres ne sont pas clairs. Et à force d'avoir des positions partisanes de chaque côté qui expliquent d'un côté c'est grave, de l'autre côté c'est pas grave, le chaos est là, non, le chaos sera pas là. En gros, ils commencent à se demander ce qu'il en est et ils trouvent que toutes ces contradictions sont assez fatigantes. Donc ça donne quoi ? Eh bien, une sensation d'impuissance, d'incompréhension qui provoque de la colère et l'impression d'avoir été promené globalement, qu'on leur a menti. Et donc ça donne quoi ? Eh bien, ça donne... on a été regarder Macron, censure, Macron, démission, qui est quelque chose qui monte. Et bah oui, ça monte lentement mais sûrement. Alors on va dire qu'il y a un fond de sauce régulièrement... je vous l'ai fait sur le dernier mois, il y a toujours un peu. Mais là, on a un pic, et ce pic, c'est pourquoi ? C'est qu'ils disent, globalement, la situation, on lui doit. Globalement, renverser le gouvernement, qui n'est pas plus fautif que ça, puisqu'il vient d'arriver, c'est pas la solution. Et d'ailleurs, quand on a demandé quel pourrait être le nouveau Premier ministre, puisque les gens disent, c'est une bonne idée de renverser le gouvernement, eh bien, comme vous pouvez le constater, c'est pas Barnier 2, parce que globalement, pour 62% des Français, ce ne serait pas une bonne idée. Ce n'est pas non plus quelqu'un du RN, ce n'est pas non plus quelqu'un de NFP, ce n'est pas non plus quelqu'un de la droite républicaine, pas non plus quelqu'un de hors NFP. Donc globalement, à 56%, on va dire quelqu'un non affilié à un parti
Le gouvernement
politique.
Technique, quoi.
Oui, mais en même temps, gouvernement technique, je regardais, les gens disent ce n'est pas déjà un gouvernement technique. Donc voilà. Donc globalement, on va dire ça serait une bonne idée pour une bonne partie des gens. Il trouve que finalement, c'est M. Macron qui devrait peut-être démissionner, même s'il faut prendre ça avec toutes les proportions nécessaires, parce que c'est juste de montrer que c'est une tendance qui monte, ça ne veut pas dire que c'est une tendance massive. Et ensuite, finalement, les partis politiques, quels qu'ils soient, ne ressortent pas grandis de l'affaire. Donc, un Premier ministre qui serait proche d'un parti politique, ça ne serait pas une bonne idée. Donc, globalement...
Non affilié, il y a les députés du groupe Lyotte, c'est ça ?
Ouais. Voilà. Mais voilà. Juste alors, on n'a pas testé celui-ci, mais
on pourrait aller chercher là. Voilà.
Juste un mot, Bruno, très vite. Démissionner, Emmanuel Macron, ce n'est pas le genre de la maison. Ce n'est pas le genre à jeter l'éponge, parce qu'il restera quoi de son
C'est bien l'intention d'aller jusqu'à la fin de 2020, enfin jusqu'à la moitié de 2027, mais c'est vrai que les conditions politiques risquent quand même d'être difficiles.
En tout cas, ça donne le sentiment que les gens ils ont envie de calme, de lisibilité, et tout ça, voilà.
Ouais.
Ça les fatigue un peu.
Alors, l'autre actualité qui a retenu votre attention cette semaine...
Mais je savais que vous aviez envie d'un peu de
c'est
sourire.
C'est l'annonce d'Anne Hidalgo qui ne se représente pas à la mairie de Paris.
Qui n'est pas pour la censure. C'est une des rares voix socialistes qui est dit qu'il fallait que négocier avec Michel Barnier et pas censurer le gouvernement.
Elle fait toujours différent.
Plus sage sur sa sortie qu'elle ne l'était peut-être avant.
Oui, mais enfin, comme elle n'est pas députée...
Voilà, bon. Alors, comment vous dire cette annonce ?
Oui, c'est vrai.
Cette annonce, vous savez que c'est une figure qui les gens aiment bien la détester, ou en tout cas, c'est un symbole sur les réseaux sociaux, au point où elle devient un mème quand elle se baigne dans la Seine. Hop, c'est un mème et on la voit. Voilà. Donc là, quand elle a annoncé ça, Madame Hidalgo qui ne se représente pas, c'est Paris libéré. Et figurez-vous que les images de Lina avec De Gaulle qui dit Paris libéré ont été largement partagées et c'était l'expression la plus partagée. Mais vous savez que Madame Hidalgo, elle a aussi des amis à Paris qui sont nos petits amis les rats. Et donc les petits amis les rats ont été convoqués et ont dit « Oh là là, mais voyez... »
Ils ont eu un conseil municipal.
Ils sont embêtés, ils disent « Mais Anne s'en va, je suis inquiet pour Junior du coup. » Alors bon, les âges d'or, tu sais, ne durent pas toujours. Et si on allait à Lyon ? Voilà. Et puis évidemment, sa meilleure ennemie, elle aussi a fait la une au moment de cette annonce, donc je ne me représenterai pas. On fait sauter les bouchons. Ou pas. Ah, ça n'est pas là. Voilà, on fait les bouchons. Ça, c'est vite dit, mais globalement, beaucoup de caricatures. Le Gorafi, évidemment, s'en est mêlé. Normal. Ouais. Ça a été plutôt relayé parce que, pour lui succéder, Anne Hidalgo a choisi... Tada ! Eh oui, régie, ils sont là, ils sont avec nos amis de la régie, le vélo. Voilà, bien sûr, c'est un vélo qui va remplacer Madame Hidalgo. Alors, 2026, c'est loin, c'est dans longtemps. Et comme les internautes aiment bien détester Madame Hidalgo, mais dans le fond, c'est aussi une posture, parce qu'elle a quand même quelques soutiens. faut quand même pas penser que tout le monde dit du mal d'elle. Mais on aime bien la caricaturer, alors c'est bientôt Noël. Voilà le type d'image qu'elle va avoir encore associée à elle. Ça lui fera sans doute beaucoup moins mal. Mais Madame Hidalgo a inauguré le sapin de Noël de l'hôtel de ville de Paris avec ses magnifiques petits bonhommes. Voilà. Ouais.
Donc là, la mairie de Paris, ça va déclencher évidemment encore des appétits.
Oui, c'est normal. Une bagarre à gauche, d'abord très forte, parce que Paris est quand même une ville maintenant qui est devenue de gauche, et la bagarre sera très forte avec les écologistes. Ouais. Plusieurs candidats, et puis les dauphins de Mme Hidalgo sont déjà nombreux sur les rangs.
Oui, non, et Gabriel Attal aussi.
Et il y a Gabriel Attal qui y songe.
Il y a du monde.
Et la droite est très divisée quand même. Ouais. La droite est très divisée et le parcours de Rachida Dati sera...
Peut-être qu'on rejugera autrement Anne Hidalgo à la fin de son mandat. Elle sera... D'abord, elle avait été réélue.
Mais beaucoup.
Et ensuite, elle ne sera pas jugée négativement au bout de son mandat. Mais il y a peut-être qu'on peut-être accepter qu'il y a quand même, il y avait quand même dans tout ça une part de misogynie. Parce que quand même, les... mais si, bien sûr que si. Dans la façon dont elle était caricaturée, moquée, etc.
Moi, il se trouve que cette semaine, il y a eu un sondage sur les personnalités les plus détestées des Français. Eh bien, dans les personnalités préférées, il n'y a aucune femme, mais dans les personnalités les plus détestées des Français, il y a 4 femmes sur 7. Je regrette, mais dont Madame Hidalgo. C'est-à-dire
mais
que
vous savez que vous êtes d'accord tous les deux.
Moi, je ne parlerai pas de misogynie, Jean-Marie, puisqu'il se trouve que j'ai quand même souvent défendu Anne Hidalgo, notamment dans sa politique de transformation de Paris. Je pense que la voiture devait reculer à Paris. Elle l'a fait, dans des conditions par ailleurs critiquables, mais elle sort par le haut. C'est assez rare, et c'est pour ça que je lui rendrai hommage, c'est assez rare un élu qui ne s'accroche pas et qui ne fait pas cette erreur du troisième mandat. Ouais.
Donc, mais vous savez quoi
Elle
sort sur le succès des Jeux.
Quand on aime détester, il y a un peu d'amour, donc il n'est pas impossible qu'avec le temps, ça devienne quelque chose de plus positif pour elle.
Ouais. Merci à tous. Bah, c'est comme les grands peintres, hein, Van Gogh.
Il faudra qu'elle sache ne pas se mêler de la bataille, de la succession.
Ça, on va voir.
Bah, si, elle a commencé.
Plus difficile.
C'est déjà fait. En désignant un successeur.
Merci à tous. Merci beaucoup à Flore Simon d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. Et soignez-vous parce que vous toussez tous. Bonne soirée.